Alors bonjour les musiciens, bonjour à tous.
Bonjour.
Nouveau dimanche, aujourd'hui nous sommes chez nous et on est content d'être là, il fait encore beau. C'est bientôt les vendanges, je crois. Hein. Eh bien, nous allons commencer par ouvrir notre Bible dans Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, verset 15. On peut commencer déjà le verset 14. Recherchez le shalom, c'est-à-dire la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne manque de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume en jaillissant ne produise du trouble et que par elle plusieurs ne soient contaminé. C'est terrible ça, contaminé. Ah, avant de commencer, je voudrais vous recommander un film. J'ai lu ce livre qui s'appelle La Cabane et ils en ont fait un film qui s'appelle Le Chemin du Pardon. Ça vient de sortir. Vous pouvez trouver ça dans tous les bons magasins, dans toutes les boulangeries, dans les... Vous trouvez ça à la FNAC, vous trouvez ça dans le magasin où ils vendent les CD, les DVD. Vous pouvez le commander sur Internet aussi, je crois 19 € et quelques. Ça a été fait par le producteur de l'Odyssée de Pi. Je pense que vous connaissez cette histoire de l'Odyssée de Pi. C'est ce gamin avec un tigre sur un bateau. Et là, c'est, je vous lis, après la tragique disparition de sa petite fille, Mac Philippe plonge dans une dépression remettant en cause ses croyances les plus profondes. Alors que tout espoir l'abandonne, il reçoit une mystérieuse invitation amenant à une rencontre qui bouleversera sa vie et l'éclairage et l'éclairera vers le chemin du pardon. Ils disent encore d'après La Cabane, ce best-seller de Paul Young, Le chemin du pardon est l'histoire bouleversante d'un père de famille au cours d'un voyage spirituel vers la rédemption. Une œuvre intense et profonde sur le deuil et la foi, magnifiquement interprétée par tous les acteurs, etc. C'est un film, on pourrait dire, d'évangélisation. Et aussi, on peut dire, c'est un film qui peut aider les gens qui sont dans la détresse parce qu'ils ont perdu un être cher ou parce qu'ils ont vécu quelques injustices. En tout cas, moi, ça me parle et ça va... En plus... Ça va m'aider parce que le niveau du message qu'il y a là-dedans, moi j'avoue, je n'ai pas encore atteint. Et ce film me parle beaucoup et je pense qu'il va vous parler aussi. Achetez-le, achetez-en plusieurs exemplaires, offrez-le à vos familles, même des inconvertis, offrez-le. C'est bientôt Noël. offrez-le pour les anniversaires. C'est un cadeau utile, c'est quelque chose qui parle. Ça n'est pas religieux, c'est juste beau. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous rappelle le titre, Le chemin du pardon. Bien, ce matin, je commence mon message. Depuis quelque temps, je vous parle de Jésus qui est la porte de son Église. Et on a vu pas mal de personnes entrer dans notre communauté, c'est-à-dire dans notre Église locale. On a vu de toutes sortes, hein. On a vu toutes sortes. On peut dire on en aura tout vu. Enfin bon... La question que je me pose est, comment va-t-on accepter de nouvelles personnes au milieu de nous? Parce que maintenant, nous sommes en train de restructurer la communauté sur de nouvelles bases, pas complètement sur de nouvelles bases, mais surtout l'accueil, et voilà. Eh bien, c'est simple, mes frères et sœurs. Si la personne aime vraiment Jésus et l'Église, il n'y a aucun problème, elle sera libre d'entrer. Et on verra vite si ces mœurs sont bonnes ou pas. Donc, pour résumer un peu ce que je disais ces dernières prédications, Dieu aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Donc, il aime tout le monde. Il ne fait pas de discrimination. Il n'y a pas celui-là, je ne l'aime pas, celui-là, il n'est pas beau, celui-là, il pue. Non, il aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés. Tout le monde est appelé, mais peu sont élus. Jésus conduit, c'est lui-même qui conduit les brebis à la porte. Et il ne peut le faire que si le Père ne les attire. Et il attire tout le monde. Donc Jésus conduit jusqu'à la porte tous ceux que le Père attire. Et Jésus est lui-même la porte. Et, chose que peu de personnes remarquent dans Jean chapitre 6, c'est qu'à la porte, il y a un portier. Il y a un portier qui laisse entrer. Le portier, c'est le pasteur. C'est le berger local, c'est celui qui a la responsabilité et qui devra rendre des comptes à Dieu au sujet de la gestion de l'église locale. Et c'est pas rigolo, c'est un souci, mais c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Cela, c'est ce que je disais donc dans mes prédications précédentes. Si vous n'avez pas écouté, écoutez-les. Si une personne reconnaît la voix du portier, pas la plupart, on prêche tout le temps, et moi-même je prêchais ça, il faut reconnaître la voix de Jésus. C'est vrai qu'il faut reconnaître la voix de Jésus, parce qu'en fait, la voix du portier, c'est la voix de Jésus. Le portier, c'est celui qui parle de la part de Jésus, c'est celui qui donne le message, entrez, venez, c'est par ici, comment il faut faire, repentez-vous, soyez baptisés, vous comprenez? Donc celui qui reconnaît la voix du portier, du berger local, qui reconnaît que c'est un serviteur de Dieu, il peut entrer. Maintenant, s'il ne reconnaît pas que c'est la voix du portier, il peut toujours se dire, je sens qu'il n'y a pas d'atome crochu avec ce portier-là, il y a d'autres églises locales, c'est pas parce que le pasteur Janton ne vous plaît pas, parce que pour ceci ou pour cela, pour cette raison ou pour une autre, il y a d'autres bergers locaux, il y a d'autres portiers qui peuvent vous faire rentrer dans l'église locale et donc dans l'église de Jésus-Christ. Souvenez-vous de mon prêche de vendredi à ce sujet. Cette personne, donc, quand elle est reçue par le portier, elle a se laisser passer, il tient à la qualité de celui ou de celle qui veut entrer. On ne juge pas les gens sur leur apparence. Si on devait juger les gens sur leur apparence, mon Dieu. Vous savez, des gens qui viennent, ils sont vraiment bizarres, mais on ne juge pas sur l'apparence, on regarde le cœur. Nous, qui sommes déjà dedans, nous avons de l'amour, nous avons la foi, et nous ne nous méfions pas des personnes qui se présentent à la porte sous prétexte que nous avons souvent été déçus précédemment avec d'autres personnes. Si vous saviez le nombre de personnes qui nous a déçus, on n'aurait plus du tout d'enthousiasme à prêcher l'évangile et à chercher des nouvelles brebis. Nous, nous aimons et nous avons la foi et en plus nous espérons que la personne qui se présente à la porte marchera fidèlement. Ce n'est pas parce que certains nous ont trahis, parce que certains nous ont volés ou salis, que nous n'avons plus d'espérance. Nous avons toujours cette espérance. Vous l'avez toujours ?
Oui,
on l'a. Alors bon, il y a toutes sortes de personnes qui se présentent à la porte et ils ont des niveaux d'éducation très divers, des diplômes ou pas, des opinions politiques, toutes sortes de trucs. Ce qui compte, c'est pas ça, c'est que cette personne soit libre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut qu'elle soit libre vis-à-vis du monde. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui ne va plus aimer l'opéra ou aimer aller voir un film ou lire un livre autre que la Bible. Ou c'est pas ça que je veux dire. Libre du monde, ça ne veut pas dire ne pas rigoler, ne pas manger un bon repas. Parce que un bon repas, c'est aussi du monde. Il faut être logique. Libre vis-à-vis du monde, c'est libre vis-à-vis des anciennes chaînes charnelles, néfastes, toxiques et aussi, peut-être même diaboliques, libre de ça. C'est-à-dire que cette personne est décidée de renoncer à des choses mauvaises qu'il pratiquait ou qu'elle pratiquait avant. Celui ou celle qui entre dans la communauté doit être une personne libérée. Libre de ses mouvements. Alors, attendez, parce que quand on dit une personne libérée, les gens pensent « Ah, libre, il doit pas avoir de démons et tout. » On en a reçu qui étaient pleins de démons, et puis l'Église les a soignés, les a délivrés au nom de Jésus. C'est pas de ça dont je parle. c'est une personne qui doit être libre de ses mouvements, c'est-à-dire qu'elle doit avoir la possibilité de témoigner de sa nouvelle foi n'importe où. N'importe où. Libre signifie que cette nouvelle personne doit avoir réglé ses problèmes qu'elle avait dans le monde. Et que cette personne ait témoigné ou puisse témoigner de sa foi nouvelle à tous ceux qu'elle connaît dans le monde, en dehors de la communauté. On a eu des cas de personnes ayant des dettes, d'autres ayant des procès, d'autres ayant des haines, des problèmes avec la famille, d'autres ayant des problèmes de honte. Bref, des choses qu'il fallait régler avec le monde extérieur. Est-ce que ça nous a empêchés de les recevoir? Non! Non! La personne qui entre dans l'église, dans la communauté, parce que quand je parle de notre église locale, c'est une communauté, comme dans Actes 2, 4, elle doit être libre de tout ça. Je ne dis pas qu'elle doit avoir payé ses dettes, je ne dis pas qu'elle doit avoir gagné tous ses procès, je ne dis pas ça. Je dis qu'elle doit avoir un bon témoignage. Les gens du dehors, même s'ils ne sont pas d'accord de la pardonner, ces gens-là doivent voir qu'elle est en train de changer de vie et que quelque chose a déjà commencé à changer et qu'elle fait tout pour réparer ses erreurs passées. Vous suivez bien ? C'est ça le témoignage. Dieu doit pouvoir rendre témoignage de vous, mais le monde doit rendre témoignage que vous êtes un chrétien. Je me souviens de David Wilkerson. J'ai travaillé dans l'équipe de David Wilkerson, Team Challenge, pendant 7 ans. Et je me rappelle que Nicky Cruz est venu à Paris, il est venu à Lausanne, il est venu, je ne sais plus, à Lyon. Enfin, on l'a suivi partout dans ses tournées, on a beaucoup pu parler avec lui. Nicky Cruz, c'était un chef de gang à New York. C'était un dur. C'était pas un petit rigolo. C'était pas un faux dur, c'était un vrai dur. Eh bien, David Wilkerson, quand Nicky Cruz s'est converti, la première chose qu'il lui a dit, mais tu vas te rendre à la police pour payer tes dettes à la société. Ah ! Est-ce que c'est juste ? Oui. Vous voyez, une personne qui entre en communauté doit être libre. C'est-à-dire, elle doit être franche avec nous. Si elle n'est pas franche avec nous, on va être devant des surprises qui vont être très désagréables. On a vu, on a connu. Elle doit être franche avec nous afin qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises et que l'Église ne soit pas salie. Et parce que si l'Église est salie, c'est le nom de Jésus qui est sali toujours. Je me souviens avoir été au restaurant, il n'y a pas très longtemps, avec des pasteurs, et un d'entre eux a été odieux, carrément désagréable, exigeant d'une façon déréglée avec les serveuses et le serveur, vraiment très désagréable. J'ai rien dit, mais en sortant du restaurant, j'ai pris ce pasteur à part, j'ai dit, mais comment est-ce que je fais maintenant pour rendre témoignage à ces personnes? Comment je fais? Pour leur parler de l'amour de Jésus, comment je fais? Et si ces personnes viennent un jour dans votre église et qui voient que c'est vous qui prêchez? Vous voyez, mes frères et sœurs, on ne peut pas se permettre dehors, derrière le mur, parce qu'il y a un mur qui sépare le monde et l'Église, Jean chapitre 10, verset 1, derrière le mur de l'Église, dehors, on ne peut pas se permettre d'agir n'importe comment, parce qu'on a un témoignage. Je me souviens d'une sœur qui nous a visités et qui a été très désagréable dans certains magasins autour de chez nous. Heureusement, je n'étais pas avec elle ce jour-là. Heureusement! Parce que comment rattraper la chose après? Comment essayer de conduire les vendeurs et les vendeuses au Seigneur? En ce moment, on va dans à peu près tous les magasins, depuis le temps qu'on est là, tout le monde nous aime bien, tout le monde, même Michou, elle a des prix partout, vraiment, tout le monde nous aime bien, on a un témoignage, tout le monde sait qu'on est des chrétiens. Et comment est-ce que je peux rattraper la chose? Ben, en disant, faut excuser, cette femme n'est pas tout à fait normale et tout, et l'autre va me dire, oui, je sais, j'ai bien vu. Si je dois être franc, heureusement que je n'étais pas avec elle, donc ça s'est bien passé. Avoir un bon témoignage à l'extérieur, c'est obligatoire. Obligatoire. On n'est pas des chrétiens que à l'église, quand on pose son derrière sur une chaise, avec les yeux qui roulent en regardant les orbes ou les anges ou je ne sais pas quelle chose. Non, 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 non. On est chrétien dans sa façon de se comporter partout, dans l'église, mais aussi en dehors de l'église. Par exemple, dans les administrations. Je connais des chrétiens, j'ai vu même sur YouTube des gens qui viennent se plaindre parce qu'on leur a sucré tel et tel truc, tel et tel machin. Mais ils se comportent comme des gougnafiers avec les gens dans l'administration. Comment voulez-vous? Ils se mettent pas... Ils s'y prennent très mal, ils ont un mauvais témoignage. Et évidemment, voilà, tout part en... C'est bien fait, ça leur apprendra à vivre. On doit avoir un bon témoignage dans les magasins, on doit avoir un bon témoignage dans les rues, partout. Alors le chrétien dit, faut pas aller au cinéma, c'est du diable. Oui, mais si vous allez au cinéma et puis que vous vous comportez comme un diable, oui, c'est du diable. Soyez gentil avec les personnes, le personnel et tout. Ayez un bon témoignage. Donnez un bon témoignage. Alors, on reçoit des pécheurs, tous les pécheurs dans notre communauté. On fait distinction de personne. Nous ne rejetons personne. Mais la personne qui se présente à la porte doit confesser, c'est-à-dire dire ses péchés, si possible, arranger les choses de sa vie passée, parce que nous allons partager maintenant notre vie avec cette personne. Et puis, tout d'un coup, s'il nous tombe, moi je me rappelle, il y avait alors des gens qui nous taisaient. Oui, vous devez payer la dette parce que la personne nous a dit qu'elle vivait en communauté avec vous, alors puisque vous mettez tout en commun, ben, vous devez payer la dette. Non, mais c'est quoi ce cirque? Non, 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 non. Là, on est capable d'expliquer en disant non, non. Vous n'avez pas bien compris. Et on explique la chose et voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Les choses peuvent rentrer dans l'ordre. On va aider la personne. On va aider les personnes qui ont des problèmes, c'est sûr. Chacun dans la communauté sait que ce que je dis là est vrai. On a aidé et on continue à aider. Nous avons aidé chaque personne qui venait pour vivre avec nous. J'ai été avec ces personnes devant des juges, devant des huissiers. Même il y en a un qui m'a foutu dehors parce que je plaidais tellement bien pour la personne qui avait des problèmes qu'il ne voulait plus me voir. Il m'a foutu, tu te rappelles, chérie, c'était terrible. Et dans des tribunaux, voilà, c'est normal de le faire. Pour un pasteur, c'est normal de le faire. Pour l'Église, c'est normal d'aider les personnes qui ont eu des problèmes dans le passé et qui essayent de les arranger. Quand le bon samaritain a conduit le blessé à l'aubergerie, eh bien, le bon samaritain, il a donné à l'aubergiste de quoi faire pour prendre soin de la personne blessée sur le chemin. Eh bien, Jésus nous donne aussi de quoi faire pour aider les frères et sœurs qui ont des problèmes quand ils sortent du monde, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ont des tas de problèmes. L'Église de Jésus-Christ doit faire ça, c'est son rôle. Et on l'a toujours fait. Nous avons été jusqu'à cacher des gens recherchés par des dealers qui leur en voulaient, et je ne vous dis pas les dealers, la tronche qu'ils avaient. Je m'appelle même ma femme un jour, il y a des gens qui sont venus avec une camionnette et des comment on appelle ça, des pistolets, parce qu'ils cherchaient à tuer quelqu'un. C'est terrible. Et ma femme dit, oh Jésus, je vous mets en pièces détachées. Quand ils ont entendu ça, ils sont partis. Nous avons pris soin des blessés de la vie, mais les blessés de la vie doivent être francs avec nous. C'est ça qu'on demande, on ne demande que ça. On ne demande que ça. S'ils sont francs avec nous, ils sont dotés de franchise. C'est-à-dire, ils sont libres d'appartenance. C'est ça, regardez bien le mot franchise. Ils sont libres d'appartenance. Ils ne sont plus liés avec le monde. Ils sont liés à la famille de Dieu. Dieu est le Père. Et la famille de Dieu va prendre soin d'eux. C'est comme ça. Dans l'Église de Jésus-Christ, les membres sont comme... les membres sont comme dans une ville franche. Je ne sais pas si vous avez vu, en France, il y a beaucoup de villes qui s'appellent villes franches. Au Moyen-Âge, on appelait une ville franche une ville qui s'était affranchie du régime féodal. Vous saviez pas ça? Ben, c'est comme ça. Regardez, vous allez sur Internet et vous cherchez pourquoi toutes ces villes s'appellent villes franches. Eh bien, c'était des villes qui s'étaient affranchies du régime féodal et les gens qui étaient dedans étaient libres, affranchis. En France, il y a beaucoup de villes qui ont pour nom Francheville ou Villefranche. Dans la Bible, ça existe aussi, on appelle ça des villes-refuges. Et l'Église, c'est une nation-refuge. C'est un monde-refuge. L'Église de Jésus-Christ, c'est un monde-refuge. Un monde fortifié, avec un mur. Un tout petit pan, avec un portier. Avec un mur tout autour, Jean 10, 1, version David Stern. Jésus a dit, la vérité vous affranchira. Alors les gens pensent, ah, il faut que je connaisse la vérité, il faut que je connaisse la vérité, il faut que je connaisse toutes les doctrines, les vraies doctrines, pas les fausses doctrines, mais la vérité, la vérité. Oui, bien sûr, mais il y a aussi un autre domaine, un autre sens. Si vous dites la vérité, eh bien, vous êtes affranchi. Et ça, ça veut dire aussi, la vérité vous affranchira. Si vous dites la vérité, si vous êtes vrai, si vous êtes authentique avec vos frères et sœurs, ben, ça vous affranchit, ça vous rend libre. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé, ni de votre ancien système de pensée. Vous êtes libre. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? C'est profond ce que je vous dis ce matin. Et la communauté va vous aider à rester libre, parce que on a toujours des tendances, même si on est né de nouveau, à, quand ça va pas bien, à glisser du côté où on a tendance à pencher. Mais la communauté va vous aider à rester libre, parce que la communauté est au courant de ce que vous êtes et de ce que vous avez fait, de comment il faut vous surveiller, comment il faut vous aider. Moi-même, je suis surveillé, je suis aidé. Premièrement par ma femme, qui dit, c'est normal, c'est juste. Les frères et sœurs me reprennent aussi. C'est-à-dire, avoir être aidé, c'est avoir, pour être aidé, il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit. Accepter qu'on a besoin d'être aidé. Alors, pas de fanatisme dans la communauté. Pas de « ainsi dit le Seigneur, infaillible ». Non, ça n'existe pas. Ça, c'est de nouveau de l'esclavage. Or, Jésus a dit que quand il y a une prophétie, on doit juger la prophétie. On est libre de juger la prophétie. On ne doit pas juger. Si. Rentrant en communauté, on entre dans un nouveau monde en tant que nouvelle personne. Alors, ceux qui nous mentent au départ ou qui ont des exigences stupides, ben, ils sont vite dévoilés. La Bible dit le méchant ne supporte pas de vivre avec le juste. Alors évidemment, très souvent, les méchants se prennent pour des justes. Voilà. Tout le monde s'en fout de moi, tout le monde. Mais c'est pas que tout le monde s'en fout de toi, mon frère, ma soeur. C'est que c'est tellement désagréable que c'est sûr que, voilà, tu fais le vide. Parce que nous faisons confiance, parce que nous avons la foi, alors les choses deviennent possibles et s'arrangent. Souvenez-vous de cette personne qui nous a dit avoir exercé tel et tel métier dans un cadre luxueux, de prestige. Non seulement on l'a cru, on l'a reçu, mais on l'a même salarié pour qu'il exerce son métier prestigieux dans la communauté. Et quoi? Pouf! On s'est vite aperçu que c'était pas vrai. Il s'était vanté. Il n'avait pas été franc avec nous. C'est clair. Quand on va simplement dans une église où on pose son derrière le dimanche, on peut raconter n'importe quoi aux gens. Mais quand on vit en communauté, c'est pas possible. On vit ensemble. Donc, les choses, ça vient. Vous voyez, nous recevons avec amour, avec foi et avec espérance. Bon, et puis il y a la question des bonnes mœurs. Alors ça fait rigoler les gens du monde, mais on s'en fout, mais on est de l'autre côté du mur, on est du côté du mur avec Jésus. En fait, une personne peut avoir été un pécheur notoire, un bandit, un voleur, un dealer, un prostitué, tout ce que vous voulez, avoir eu une vie vraiment pas un jojo. À partir du moment où il entre dans l'église, c'est-à-dire dans la communauté, je parle toujours de, quand je dis église, ça veut dire communauté, il change. Il rentre là parce qu'il veut changer. Alors, il doit s'acheter une respectabilité. Acheter, oui, pas à prix d'argent. Mais regardez ce que Jésus dit dans Apocalypse 3, 18. « Achetez de moi de l'or purifié par le feu, afin que vous deveniez riches. Achète de moi des habits blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité n'apparaisse pas. » Il y a un prix, même si c'est gratuit, même si ça ne coûte pas de l'argent, il y a un prix, il y a des trucs, hein, les mini-jupes à ras-le-bonbon, non. Il faut cacher ta nudité, tes décolletés, machin, non. Il y a un prix à payer, tu renonces, tes nuisettes, non. Dans ta chambre, oui, mais pas pour prendre le café avec nous. Une personne qui entre dans l'église, dans la communauté, elle porte le nom de Jésus. Et à cause de ça, elle est obligée d'obéir à la loi morale de Jésus. Bref, elle doit marcher droit selon les bonnes lois du bon berger et se souvenir qu'il y a un portier. Parce qu'un portier fait entrer, mais il peut aussi foutre à la porte. Ah, il fallait penser. Je me souviens de cette femme qui m'a écrit en juin dernier et qui disait « J'ai passé l'âge où on me dit comment je dois m'habiller. »« Ah bon ? » ?»« Ben, va t'habiller comme ça chez toi, mais pas chez moi. » Une femme, c'est pas une femelle. Dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a même pas de femmes, il y a des dames. C'est différent. Alors, je donne cet exemple parce qu'il est frappant. Ils me disent, oui, tu tapes sur les femmes, t'es comme Branham. Les hommes aussi, ils y ont droit. Hein. Venez manger chez nous, par exemple, on est à la piscine, on se baigne et tout. Venez ensuite à table, les hommes torse nu avec vos poils, tout plein de sueur et tout, vous allez voir. On va vous faire remarquer que ça serait quand même bien de mettre une chemise. C'est dégueulasse de manger avec les poils. Bon, prendre une tarte l'après-midi, c'est différent. Mais pour prendre un repas, non. Il y a des règles pour les femmes et pour les hommes, c'est pas seulement pour les femmes, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, alors bon, cela peut sembler archaïque, mais tant pis, nous sommes sortis du monde, on n'est pas comme les gens du monde, et voilà. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand vous êtes entrés dans la communauté, certains vous aviez 20 ans, d'autres 30 ans, d'autres 60 ans, peu importe, c'est pas ça. Passez la porte, vous êtes un nouveau-né, dans un nouveau monde, et il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce nouveau monde. Alors, si nous vous aimons, et nous vous aimons, si nous avons foi en vous, et nous avons foi en vous, si nous espérons tout à votre sujet, eh bien, vous devez avoir de l'humilité et vous devez avoir de la reconnaissance aussi. C'est quand même la moindre des choses. Je ne parle pas pour ceux qui sont ici en ce moment. Hein. Je parle pour ceux qui sont candidats à vouloir rentrer dans la communauté. Je ne parle pour aucune personne d'ici. Parce qu'une personne qui entre dans l'église rétablie, elle entre dans le monde de l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, il y a une hiérarchie que vous ignorez et vous allez apprendre. Il y a Dieu le Père, il y a son Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges, parmi lesquels il y a toute une hiérarchie aussi. Il y a les ministères, il y a les anciens, il y a les diacres. Il n'y a pas d'ordre. Désolé, il n'y a pas de robin. Alors en plus, je dis ça parce qu'on a eu un cas dernièrement, en plus de ne pas avoir l'âge que vous aviez dans le monde, il se peut aussi que votre nom change. Jésus faisait ça, souvent. Simon, il l'appelait Pierre. Plein de choses comme ça. Et il arrive que ça se fasse aussi dans l'église. Les juifs font ça, ils ont toute une cérémonie pour ça. Parce qu'il y a des gens qui ont un nom ou un prénom, surtout, qui a une mauvaise influence sur eux. Vous savez ça? Vous y croyez peut-être pas, mais c'est comme ça. C'est dans le monde de l'esprit. Alors, l'Église change leur nom Changer de nom, c'est recréer, c'est donner une nouvelle identité, c'est aider à naître. Certaines personnes en ont vraiment cruellement besoin. Cruellement besoin. Pas à tous. Pas à tous. Alors bien sûr, l'ordre existe dans la communauté et il va être bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle personne. On a connu ça, on sait ce que c'est, on connaît l'histoire. Cette nouvelle personne, elle va perturber l'ordre qui est établi. Tout roule, on sait qui doit faire quoi, quand et comment, tout roule, tout se baigne, tu vois là qu'il y a une nouvelle personne ou un couple qui arrive, ça change un petit peu les habitudes. Et parce que c'est pourquoi ? Mais parce qu'au début, c'est un corps étranger, il ne sait rien, il ne sait pas comment, il faut tout apprendre. Je vous ai dit, vous êtes rentré, vous avez peut-être 50 ans, mais quand vous rentrez dans la communauté, c'est une nouvelle naissance, il faut naître un nouveau monde avec des nouvelles choses. Parce que ce corps étranger, il pénètre un organisme vivant, le corps de Christ, dont nous sommes les membres, c'est un corps vivant, et puis voilà qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Ça bouleverse les choses, ça peut porter du bien, mais ça peut aussi apporter des désagréments. Oui ou non?
Oui, bien sûr.
Il y a toujours les deux choses, ça apporte du bien et des désagréments. Il faut faire avec, il faut jouer avec, il faut jongler, il faut apprendre, il faut être souple, tous, aussi bien le nouveau que les anciens. Alors on espère, vous voyez, on aime la personne, on a foi qu'elle est franche, et on espère qu'elle va apporter du sang neuf, comme on dit, et un plus dans la communauté. On sait bien que ça va causer des problèmes aussi, mais on espère qu'elle va apporter un plus dans la communauté, quelque chose de bien, de super, un talent, je ne sais pas. Ce travail, parce que c'est un travail, fait un peu souffrir les deux parties. C'est un peu comme une greffe. Si on greffe un corps sur notre corps, j'ai lu dernièrement, il y a un homme, il a subi, tant mieux pour lui, la greffe de deux bras. Il y a une cicatrice des deux côtés, hein. Et bien, quand un nouveau membre vient dans la communauté, et bien, il y a une cicatrice des deux côtés. Le corps, il y a quelque chose qui est changé, et puis une blessure. Mais ça va s'arranger, on a l'espoir, on le sait, on est averti, et on est content même. Le bonhomme avec ses deux bras, pour le moment, il doit la piler à l'hôpital. Mais quand il va pouvoir les bouger, ses deux bras, et puis serrer sa femme et ses enfants dans ses deux bras, il va être content, non ? Mais il va falloir un peu de temps, voilà. Je dis tout ça parce que Dieu nous a mis à part, depuis quelques mois, afin que nous nous refassions une santé après les épreuves que nous avons vécues au château. Nous ne commettrons plus les mêmes erreurs. Nous avons eu trop d'amour et pas assez d'exigence. Moi le premier. Par rapport à la franchise des nouveaux arrivés, j'ai laissé passer trop de choses inacceptables. Inacceptables. En lisant le livre de l'histoire de l'église des Mormons, vous avez la photo sur Révélation Bible en première page, je vous recommande de le lire, vous allez sur leur site et vous le commandez, vous allez voir, c'est très instructif. Nous avons vu qu'ils ont vécu les mêmes choses que nous. Et qu'il leur a fallu du temps pour apprendre à vivre la vie de l'Église. Souvenez-vous de M. Bennett, qui entre en 1840 dans leur Église. Il est devenu le second de Joseph Smith moins d'un an après. Pourquoi ? Parce qu'il avait des talents, parce qu'il avait des capacités, parce qu'il était charmant, et puis tout d'un coup, on s'est aperçu, parce que les choses se savent, Dieu ne nous laisse pas comme ça. L'Église a appris qu'il avait abandonné sa femme et son gamin dans une ville voisine. Et c'était le second. Mon Dieu, les seconds. Et en 1842, ce M. Bennett, humilié d'avoir été découvert, a essayé d'assassiner Joseph Smith. Vous direz, oui, c'est les Américains, ils sont dingues et tout. Bon, d'accord, c'est bien. En 1844, c'est-à-dire 2 ans seulement deux ans après, le deuxième conseiller de Joseph Smith, William Law, conspira contre le prophète et créa une division. 200 personnes l'ont suivi. Et dans ce groupe, il y avait un type qui s'appelait Francis Higbeck. Il était un des dirigeants de l'Église. Et lui, il a commis l'acte qui a conduit la foule d'émeutiers à assassiner le prophète Joseph Smith. C'est qui a fait ça? Quelqu'un de l'intérieur. Vous voyez pourquoi il faut qu'on soit sur nos gardes. Quand ce monsieur Francis Higbeck est rentré dans leur communauté, dans leur église, il n'a pas dit « Bonjour, c'est moi le salopard !» Non, il s'est montré chrétien. Vous voyez? Nous ne commettrons plus les erreurs qu'on a faites de laisser rentrer des gens qui mettent la pagaille dans l'église. L'église n'est pas dans l'hôpital psychiatrique, c'est pas un cirque non plus. Nous n'avons pas l'habilité de soigner les malades mentaux. Ces gens-là, ils doivent aller là où ils doivent aller. C'est tout. Moi, je n'ai pas la formation on a essayé par amour, mais on avait... Enfin bon, on va tout raconter. Nous ne commettrons donc plus les erreurs. Nous avons beaucoup appris avec toute cette histoire et aussi en lisant ce livre de l'histoire des Mormons, parce qu'on a vu que... Vous savez, j'ai lu l'histoire des pentecôtistes, des baptistes, des protestants. Ils racontent toujours l'histoire, c'est beau en leur faveur. Ils racontent toujours comment ils ont été merveilleux. Tout. Et eux, ils ont la franchise de dire les bêtises qu'ils ont faites. Ça me plaît. C'est des gens qui sont francs. Voilà, ça c'est bien. Il y a toujours eu et il y aura toujours des loups qui vont entrer dans l'église. Tout à l'heure, là, avant de venir, je regardais le petit dessin animé des trois petits cochons, vous savez, avec le loup. Qui a peur du grand méchant loup, c'est pas nous. On a l'air qui construit, vous connaissez l'histoire, hein, sa maison en paille, puis c'est le moment de celui qui construit en briques, et puis l'autre qui construit en bois. Mais avec ce que nous avons appris, on va être plus attentif, et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. On va perdre moins de temps. Savez-vous que d'après le prophète conspirateur dont je ne donnerai pas le nom, celui qui disait que je suis possédé, eh bien d'après lui, la grande tribulation a commencé le 29 octobre 2016. Et, c'est pas moi qui écoute, hein, mais c'est on, des sources bien informées. Depuis le 21 août de cette année, il n'y a plus de pardon. Dieu pardonne plus personne. J'ai plaisir, hein. Oui, voilà. Alors vous pouvez y aller, de toute façon on s'en fout, Dieu ne nous pardonne plus. Voilà le genre d'ineptie qui sort tout droit de l'hôpital psychiatrique ou de l'enfer, je ne sais pas. Comme l'autre là, celui-là il est public, Claude Inierski, qui dit que le 23 septembre 2017, ça c'est le retour de Jésus. Vivement le 24, j'ai déjà acheté la bouteille de champagne. Jésus va revenir n'importe quand, peut-être avant. Mais j'espère que Jésus est assez bon pour ne pas revenir le 23, rien que pour embêter Claude Inierski. On ne cautionne pas ces imbécilités. Non. Alors prenons exemple sur ce qui s'est passé dans l'église depuis le début et après avoir, en tant que portier, laissé entrer de telles personnes dans notre église locale, eh bien, en tant que portier, je les mets à la porte au nom de Jésus-Christ afin qu'ils cessent de produire des rejetons d'amertume dans le corps de Christ afin que des personnes soient contaminées. Hébreux 12, 15. Officiellement, aujourd'hui, je les excommunie. Ça ne veut pas juste dire, voilà, je vous excommunie. Je prononce leur excommunication. Ça veut dire, je renie le baptême que je leur ai administré. Plus que ça, je retire les bénédictions de mariage que j'ai prononcées sur eux. Je laisse ma bénédiction à leurs enfants parce que ce sont des enfants, ils n'y sont pour rien. Vous voyez, le portier, parfois, le portier de Jean 10, 3, ben il met à la porte. Il met à la porte. Je vais vous dire une chose, si je ne le fais pas, je suis responsable devant Dieu de l'Église que le Seigneur m'a confiée. Si je ne le fais pas, Dieu enverra ses serviteurs les anges pour les jeter hors de la salle de noces, pieds et poings liés. Vous trouvez ça dans Matthieu 22, 11. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Le problème, c'est qu'après, Jésus va me prendre à part et dire, mais comment ça se fait que tu as laissé ça entrer dans mon église? Vous comprenez? Et j'aurai des reproches. Je n'ai pas envie. Alors, en tant que portier, je les mets à la porte au nom de Jésus-Christ. Et ce que je lis sur la terre est lié, mais quand je délie, c'est délié. Voilà, c'est fait. L'histoire avec eux se termine là. On va voir ça bientôt, vous allez voir. Les frères et sœurs, prions pour que Dieu nous donne du discernement. Que nous ne soyons pas remplis d'amertume, mais toujours d'amour, de foi et d'espérance pour tous ceux qui vont venir. Mais exigeons la franchise, l'humilité et le sens de l'honneur. C'est au moins ça. Amen. Amen. Voilà, c'est un enseignement que je vous donne. Je ne suis pas là le dimanche matin pour faire des grandes envolées, pour vous chatouiller les ailes. Je suis là pour dire les choses qui doivent être dites afin que l'Église soit remise en ordre. Elle est malade, elle doit être rétablie. L'Église a besoin d'être rétablie. Alors voilà ce que je dis aujourd'hui. Et je conseille les pasteurs, parce que je sais qu'il y en a plein qui viennent m'écouter, de faire pareil. De faire pareil. Ne soyez pas timorés dans votre foi. Ne soyez pas des sentimentalistes à l'excès. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs et que nous puissions aller de l'avant en nous réjouissant toujours et en nous agrandissant. Merci pour les nouvelles personnes. Et je te demande, Seigneur, que tu rajoutes encore à l'Église et que nous puissions toujours être un bon témoignage. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen.
Amen. Gloire à Dieu.